l'histoire n'est pas une nostalgie, mais c'est un tremplin nécessaire pour l'avenir.
Le casse-tête taïwanais.
J'espère que Taïwan changera dans le futur. J'ai confiance dans ce changement. J'aimerais que Taïwan ait une place sur la scène internationale, s'ouvre à l'étranger et pas seulement à la Chine. Quand je suis à l'étranger, je voudrais crier haut et fort que je suis taïwanaise. La Chine considère Taïwan comme une partie de la Chine. Mais en fait, je dis que Taïwan est un pays à part entière, avec son propre président, son armée, son parlement. J'ai hâte que Taïwan sorte de l'ombre de la Chine.
En même temps que se déroulaient les élections taïwanaises, les réseaux sociaux diffusaient l'histoire d'une chanteuse de Lille, une gamine de 16 ans, qui, membre d'un groupe coréen, avait cru pouvoir arborer le drapeau de Taïwan. Pour garder son marché sur le continent, elle a dû présenter de plates excuses. À la colère des internautes chinois a succédé la rage des internautes de Taïwan. D'un côté, un géant, de l'autre, un petit dragon. D'un côté, un système resté autoritaire, de l'autre, un régime qui a réussi à devenir démocratique. D'un côté, la République populaire de Chine, et de l'autre, la République de Chine à Taïwan. La République populaire ne la reconnaît pas, mais si d'aventure elle se hasardait à abandonner son nom pour devenir Taïwan, Pékin ne l'accepterait pas. Taïwan vit ainsi dans l'équivoque. Une constitution, mais pas de frontières de droit, des frontières de fait, avec un système de sécurité digne d'Israël, mais un outil militaire qui serait bien difficile à utiliser. Le jeu entre Pékin et Taipei, c'est un vrai casse-tête. Les dirigeants des deux pays ont parié ces dernières années sur la coopération économique, mais le temps joue contre Pékin. Les Taïwanais d'aujourd'hui sont de plus en plus nombreux à se sentir d'abord Taïwanais. La présidente qui vient d'être élue incarne cette tendance. Taïwan aux urnes, Pékin est aux aguets.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Samia Ferhat, bonjour.
Bonjour.
Il faut que vous disiez ce qui vous a attiré à Taïwan. Vous avez passé des années et des années étudiant d'ailleurs les origines du mouvement politique qui vient de prendre le pouvoir ce week-end.
Oui, tout à fait. J'ai fait ma thèse de doctorat sur le mouvement Dengwai. Donc, c'est un mouvement d'opposition qui est apparu à Taïwan dans les années 70 et qui a donné naissance au premier parti d'opposition à Taïwan, le Minjingdang, le parti démocrate progressiste, en 1986, qui est donc arrivé au pouvoir samedi dernier.
Il avait eu la présidence un moment, mais il n'avait jamais eu la présidence et le Parlement. Mais parlez-nous du pays d'abord, tel que vous l'avez parcouru, de long en large.
Alors, Taïwan, c'est un pays dans lequel je suis arrivée un peu par hasard. C'était pour apprendre le chinois mandarin. Et un de mes professeurs m'avait conseillé d'aller à Taïwan plutôt que d'aller en Chine. Et donc, je suis partie à Taïwan pour y apprendre le chinois. Et C'est un petit pays, puisque c'est une île avec une population de 23 millions d'habitants. Et ce qui m'a plu à Taïwan, c'est certainement la chaleur de ses habitants, leur capacité à accueillir les gens, les étrangers, et aussi ce dynamisme, cet optimisme qui caractérise, je crois, ce pays.
Bien plus beau chinois. Je veux dire que les idéogrammes sont conservés dans toute leur superbe, alors que du côté continental, ils ont été simplifiés.
Voilà. Alors ça, je ne sais pas si c'est quelque chose de positif quand on est étudiant et qu'on doit apprendre le chinois complexe, les caractères complexes. Mais effectivement, à Taïwan, on utilise les caractères complexes. Donc, ils n'ont pas connu la simplification qu'a connu le continent, donc à partir des années 50.
Taïwan se présente comme sophistiqué, et pour les Taïwanais, c'est plutôt un compliment. Alors, vous avez entrepris un grand atelier, vous enseignez à Nanterre maintenant et à l'EHSS, de mémoire, où vous avez comparé la mémoire des étudiants chinois et des étudiants taïwanais. Est-ce qu'on peut partir de très très loin? Vous allez me dire, je suis pas une anthropologue. Enfin, vous êtes allé voir les aborigènes au centre de l'île quand vous viviez à Taïwan.
Alors, je ne suis pas spécialement allée voir les aborigènes, mais je suis allée dans des régions où la population aborigène est importante. Et Taïwan, c'est une île où il y a énormément de communautés différentes. Et les aborigènes sont ce qu'on appelle les premiers habitants de Taïwan.
Mais maintenant, Un Taïwanais aime bien se regarder dans la glace et cherche les traits aborigènes qui pourraient être les siens.
Oui, souvent on rencontre certaines personnes qui sont fières de dire que dans la famille, il y a très certainement eu des mariages entre Han et entre aborigènes et que donc il y a du sang aborigène qui coule dans les veines. Oui, quelques Taïwanais aiment à revendiquer cette identité.
Comme les Québécois aujourd'hui voudraient être indiens. Voilà. Mais il y a eu, et c'est pour ça qu'ils sont devenus Québécois, des Français, des Anglais. Il y a eu des vagues d'arrivées à Taïwan avant l'arrivée des nationalistes chinois au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Hollandais, portugais. On pourrait peut-être dire un mot des Japonais.
Alors les Japonais, c'est une colonisation en fait. C'est une colonisation. Les Japonais sont arrivés à Taïwan après la première guerre sino-japonaise. Donc guerre perdue par les Chinois et les Chinois, donc l'Empire Qing, ont été obligés de céder Taïwan et Penghu, les pescadors.
Le fils du ciel était très triste parce que c'est si beau Taïwan.
Le fils du ciel était très triste, mais pas uniquement le fils du ciel. Il y a beaucoup de lettrés, notamment Kang Youwei et Liang Qichao, qui ont été choqués, bouleversés par le fait que Taïwan soit cédé au Japon.
Mais les Taïwanais, il y a eu 50 ans d'occupation, se sont peu à peu japonisés. Et quand les nationalistes du Kuomintang sont arrivés, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été une grande surprise pour eux. Des gens qui connaissaient l'écriture japonaise se sont sentis en mandarin illettrés.
Exactement. Il y a toute une génération d'écrivains, d'intellectuels qui ont été formés dans les écoles japonaises, hein, qui à partir des années 20 ont été ouvertes à la fois aux Taïwanais et aux Japonais. Donc ils allaient ensemble à l'école. Et ces intellectuels parlaient uniquement le japonais pour certains d'entre eux. Et puis bien sûr les dialectes locaux. La politique de Kominka, donc d'assimilation des Japonais, a fait qu'une élite japonaise se reconnaissait, en fait, une élite taïwanaise se reconnaissait une identité japonaise et s'est trouvée donc illettrée, effectivement, quand le Kuomintang est arrivé à Taïwan, que Taïwan est redevenue province chinoise et qu'il a fallu donc...
Et qui a imposé le mandarin.
Voilà, et qui a imposé le mandarin.
Sophistiqué. Nous sommes après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre a continué entre Mao, le chef du Parti communiste chinois, Chiang Kai-shek, l'héritier de la République de Chine, le chef du Kuomintang, qui va s'abriter à Formose, on disait dans le monde occidental plus volontiers Formose que Taïwan, sous le parapluie américain. C'est seulement 1975, après des décennies de régime autoritaire dans l'île, qu'il va mourir, à peu près en même temps que son vieil adversaire Mao, et lui est construit un mausolée, décrit ici pour France Inter par Anne Pastor.
Fenêtre dans la grande salle, tout autour de nous des peintures monumentales qui racontent l'arrivée de Chiang Kai-shek à Taïwan.
Et comme vous le voyez, la pièce centrale de ce mémorial, c'est... Qu'est-ce que c'est comme marque? Je vois pas.
Cadillac.
C'est une Cadillac, une énorme, luxueuse Cadillac. C'était la voiture du généralissime. Et c'est quand même un symbole, si vous voulez, qui est si peu de symboles, justement, à mettre dans ce mémorial. C'est-à-dire que pour évoquer la figure du généralissime, on met une grosse voiture noire, qui maintenant ne fait plus grande impression, mais était certainement la voiture la plus moderne de l'époque. Et c'est donc la figure, quand même, d'un généralissime qui est évoquée par ce symbole un peu drôle ou un peu désuet, tout de même, si vous voulez. Mais c'est ce qui peuple le centre du mémorial.
Et le voilà, cet homme qui a connu les plus grandes victoires et les plus cuisantes défaites. À côté de lui, sa femme, la belle-sœur de Sun Yat-sen. Étrange destin que celui de Chiang Kai-shek, qui à 20 ans coupa sa natte, symbole de soumission à l'impératrice, et qui, à 84 ans, rêve de renverser le grand empire communiste qu'il aurait pu édifier lui-même. Depuis plus de 20 ans, il est en exil dans cette petite province, où il règne sur 12 millions de Taïwanais qui sont certes des Chinois, mais qui ne partagent pas nécessairement la même nostalgie du continent perdu, et sur 2 millions de réfugiés continentaux qui, eux, bien sûr, lui restent fidèles et vivent dans ce même espoir de retour sur la terre des ancêtres.
Espoir du retour sur la terre des ancêtres, c'est pas un tombeau C'est un mausolée, parce que Chiang Kai-shek ne peut être enterré, il est mort avec cette idée, que sur le continent.
Alors là, je pense qu'il parle du mémorial, en fait, qui se trouve à Taipei. Donc c'est le mémorial Chiang Kai-shek. C'est un mémorial dans lequel il y a un musée dédié à Chiang Kai-shek et dans lequel on voit donc cette fameuse Cadillac. En fait, le mausolée de Chiang Kai-shek se trouve dans le district de Taoyuan. À Tsuru. Et effectivement, il n'est pas enterré là-bas, puisqu'on attend que ses restes soient envoyés, enfin déplacés sur le continent, certainement en même temps que ceux de son fils et de sa femme, Sun Meiling, qui, elle, a été enterrée, par contre, aux États-Unis.
Elle est morte à plus de 100 ans aux États-Unis. Son fils a succédé à Chiang Kai-shek. Les Taïwanais, disait ce très ancien reportage, ne partagent pas nécessairement la nostalgie pour l'empire et le continent de Chiang Kai-shek. Les Taïwanais d'origine, de diverses origines. La nostalgie de l'Empire, vous voyez ça chez vos enquêtés, chez les étudiants taïwanais, quand ils vous parlent de leur passé, de la manière dont ils pourraient faire des nœuds dans leur mémoire? Parce qu'ils ont tous passé, quand ils étaient scolaires, en visite dans le musée du palais, où ont été transférés par Chiang Kai-shek une partie des trésors.
Oui, c'est ça. Les trésors de la cité interdite, en fait, qui ont été déplacés en Chine dès l'arrivée des Japonais sur le territoire chinois dans les années 30 et qui ont connu un long périple jusqu'à Taïwan et qui se retrouvent maintenant.
Voilà. Qui ont fait le chemin de fer, le bateau, le bac, le radeau.
Exactement, et qui se retrouvent maintenant au musée du palais à Taïwan. Est-ce que la jeunesse a cette nostalgie de l'Empire? Je ne crois pas. Bon, c'est une jeunesse qui connaît l'histoire de la Chine, mais qui à Taïwan s'intéresse de plus en plus à l'histoire de Taïwan. Hein. Depuis les années 90, c'est l'histoire de Taïwan qui est valorisée et que l'on met en fait au centre de l'éducation historique.
Même, Samia Ferhat, vous parliez de Madame Chiang Kai-shek, l'étonnant personnage de Madame Chiang Kai-shek qui appartient à la famille de Sun Yat-sen, le fondateur de la République. Vous voyez, chez vos enquêtés, un intérêt pour la République, c'est-à-dire la chute de l'Empire, la création d'un régime qui aurait peut-être pu être démocratique, Sun Yat-sen, 1910-1911.
Alors, la mémoire par rapport au personnage de Sun Yat-sen a toujours été très importante en Chine et à Taïwan, mais il me semble que les choses commencent à évoluer aussi en fonction des générations. Donc cette mémoire de la République, le sens que revêt la République dans l'évolution politique de la Chine et donc sur Taïwan est importante. Mais je crois que maintenant la République de Chine est considérée comme avant tout un système politique lié au Kuomintang. Donc évoquer la République de Chine souvent peut être sensible.
Mais c'est le drapeau de Sun Yat-sen qui est le drapeau de Taïwan.
C'est le drapeau de la République de Chine qui est le drapeau de Taïwan. Donc ce drapeau justement que cette jeune fille dont vous parliez, qui fait partie donc d'un groupe coréen.
La gamine de 16 ans qui a dû le retirer après les protestations des internautes chinois.
Voilà, donc le drapeau, mais ça c'est très intéressant, commence à reprendre de l'importance à Taïwan parce que c'est le drapeau de la République de Chine. Et puis rendre visible la République de Chine, donc l'État officiel qui est à Taïwan, eh bien c'est aussi brandir son drapeau. Drapeau, pour finir sur cette question, qui d'ailleurs est interdit toutes les rencontres internationales, notamment les rencontres sportives internationales. On utilise un autre drapeau qui n'est pas celui de la République de Chine.
Souvenir de la République de 1910, souvenir de plus en plus mêlé dans la mémoire taïwanaise de l'époque du Kuomintang, de la dictature de Chiang Kai-shek. 1945, il y a eu, vous en parliez, l'imposition du mandarin. 1947, la police du Kuomintang repère une vieille dame qui vend des cigarettes. Elle pense que ce sont des cigarettes de contrebande. Ça ressemble étrangement à la Tunisie, il y a 5 ans. La police assomme la vieille dame. Les témoins qui sont là sont révoltés. Puis peu à peu, l'émeute va gagner. Et on entend ici un extrait de La Cité des Douleurs, le film du cinéaste dont je vous laisse dire le nom.
Hou Hsiao-hsien.
Il est l'auteur d'une grande trilogie historique. La répression va faire peut-être 10, 20 000 morts. Le Kuomintang plus tard présentera ses excuses, mais là, le gouverneur qui va s'exprimer à la radio de l'époque en 1947 dans la restitution de ce film, il ne faut pas se fier à son air bonhomme.
Citoyens de Taïwan, des mesures contre les derniers incidents ont été lancées hier. Vous les connaissez, vous comprenez la situation. Pour calmer les esprits et restaurer l'ordre, j'ai décidé de prendre les mesures suivantes. Le gouvernement considère que les personnes impliquées ont réagi irrationnellement. Personne ne sera donc puni. Tous ceux qui ont été arrêtés par l'armée seront remis en liberté et transférés au bureau de la police militaire où leur famille pourra venir les chercher. Pour simplifier la procédure, les chefs de district n'auront pas à donner de garantie. En ce qui concerne les blessés et les morts, qu'ils soient fonctionnaires, enseignants ou autres, taïwanais ou continentaux, les blessés recevront l'aide médicale. Les familles des morts recevront une indemnisation. Un comité spécial sera créé qui inclura les officiels du gouvernement, législateurs, maires, mais aussi ceux qui, dans la société, représenteront la véritable opinion du peuple.
Tu parles, oui, le souvenir qui reste de cet épisode de 1947 chez beaucoup de Taïwanais, c'est l'idée que le gouvernement du Kuomintang a massacré systématiquement plutôt les anciens Taïwanais, les Taïwanais d'origine. C'est voilà. Un massacre ethnique.
Alors, c'est la lecture que l'on a donnée pendant de nombreuses années, à savoir que les événements de Erba, donc du 28 février 1947, ce sont des événements qui se sont traduits par une profonde brutalité des nouveaux arrivants, donc de l'armée, des policiers au service du gouvernement nationaliste, qui ont réprimé donc la population taïwanaise, donc la population taïwanaise de souche. Et ces événements ont pendant très longtemps été considérés comme scellant la fracture entre ces deux communautés, les Chinois du continent, donc venus à Taïwan en 45, et les Taïwanais de souche, donc qui étaient à Taïwan depuis, on fait remonter ça au XVIIe siècle, les premières arrivées de Chinois du continent. Et donc cette brutalité, en fait, a aussi été le début de cette période d'une dizaine d'années qu'on appelle la période de terreur blanche. Alors, c'est une période, évidemment, qui a énormément fait souffrir l'élite taïwanaise, mais qui a aussi frappé des Chinois du continent, dont des Weishanren, parce qu'ils étaient soupçonnés de faire partie de groupuscules de gauche, de groupuscules communistes. Donc, ces dix années ont été des années de grande violence et brutalité pour, bien sûr, la communauté taïwanaise, mais aussi la communauté des Weishanren, en tout cas, certains parmi eux qui avaient des sympathies de gauche.
Au moins, la mémoire d'aujourd'hui reconnaît-elle au gouvernement du Kuomintang le mérite d'avoir fait moins d'erreurs économiques que Mao, d'avoir commencé à former un petit dragon, à avoir créé l'agriculture jugée la plus productive du monde. Mais vous dites que ça n'a pas beaucoup d'importance, ça, dans la mémoire.
Alors, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bon, je peux peut-être pas parler ainsi. Ça a de l'importance dans le sens où les Taïwanais, lorsque l'on parle de la réunification avec la Chine et des relations avec la Chine, pendant longtemps ont mis en avant quand même leur système de développement, leur système économique, leur prospérité économique, qui faisait qu'il n'était pas possible de se réunifier avec la Chine, qui était dans une situation économique de bien moindre qualité. Alors. Cette question de l'économie est importante parce que souvent aussi, on a mis au crédit des Japonais tout le développement de Taïwan. Mais non, je pense que quand même, les Taïwanais savent aussi ce qui est du fait du Kuomintang et de ses techniciens et de ses spécialistes.
Taïwanais se sentent de plus en plus taïwanais. C'est la leçon qu'il faut tirer de l'évolution de ce chanteur qui anime un groupe chtonique, heavy metal, c'est assez rare en Asie, qui paraît souvent maquillé, le corps tatoué, mais qui s'est présenté aux élections législatives sous la houlette de la présidente élue. Il s'appelle Freddy Lim. Nous sommes d'abord taïwanais, disait-il dans sa campagne électorale.
Tu 前都将阿鼻取掉，为着子孙的笑容，为着咱的理想，要走出真久无看的善良。
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Samia Ferrat, nous parlons au lendemain des élections législatives et présidentielles taïwanaises, de la mémoire de Taïwan, de son rapport avec la Chine. On a laissé le vieux maréchal Chiang Kai-shek dans son mausolée. Il est mort à peu près en même temps que Mao. Et l'évolution a commencé ensuite lentement. C'est un mouvement par le bas qui va se produire grâce aux commerçants, aux investisseurs, un mouvement de rapprochement.
De rapprochement entre la Chine et Taïwan. Oui, c'est certainement lié aux Taïwanais qui, dans les années 80, ont délocalisé en fait leur structure de production en Chine pour bénéficier des coûts de production moins élevés sur le continent. Et cette dynamique économique a certainement été à l'origine de ce rapprochement entre la Chine et Taïwan, un rapprochement qui s'est fait tout d'abord sur le plan donc des relations économiques, intellectuelles, scientifiques, etc.
Et puis est venu aussi le mouvement touristique. Alors je voulais vous présenter, chers auditeurs, un endroit enchanteur où il faut faire du tourisme. Il y a maintenant des supermarchés, des grands centres commerciaux, des hôtels. Je veux parler des îlots qui étaient les avant-postes de Taïwan, les îlots qui frisent la moustache de la Chine continentale. Quand on entend ce reportage, il date d'autour de 1970. On voit pourtant que c'était pas du tout un plaisir que d'habiter Quémoy. Quémoy, on dit maintenant Jinmen.
Quémoy, Jinmen.
Ouais. C'était pas du tout un plaisir. Les bombardements étaient programmés un jour sur deux et à toutes les heures où les ménagères n'étaient pas susceptibles de faire leurs courses.
Chaque jour, entre l'île de Quémoy et la Chine rouge, située à moins de 2 km, un dialogue de sources poursuit. Débarrassez-vous de votre régime de terreur et de famine, disent les haut-parleurs de Chiang Kai-shek. Vous êtes les chiens couchants de l'impérialisme américain, répondent ceux de Mao Tse-tung. Quémoy est le bastion avancé de Formose, situé à 200 km plus à l'est. Une forteresse souterraine, 70 000 militaires en assurent la garde permanente, tandis que sur 250 km² environ, vivent 50 000 civils, cultivateurs, pêcheurs, toujours prêts à disparaître dans l'abri le plus proche.
Il y a les bombardements chaque deux jours. Les communistes, ils tirent des bombes dans l'île. Ils envoient la propagande communiste ici, mais personne ne le regarde.
Mais Quémoy n'a pas toujours été aussi calme.
Avant 7 ou 8 ans, alors là c'était quelque chose de formidable, parce que le communiste il tirait des milliers et des milliers par jour.
Bien que de part et d'autre, une vingtaine d'obus continuent à être échangés, les jours impairs, Quémoy mène une vie à peu près normale. De ce bastion stratégique, la Chine nationaliste a voulu faire un bastion psychologique. L'apprentissage du nationalisme s'y fait dès les premiers vagissements. Ces petits garçons, ces petites filles sont les futurs soldats de Chiang Kai-shek. Que dis-je, ne le sont-ils pas déjà?
Oui, ils sont devenus plus grands et maintenant, qu'est-ce qu'ils vendent, ces habitants des îlots aux touristes chinois?
Ils vendent beaucoup de choses et il y a une petite anecdote qui est assez amusante qu'on a lue dans le Figaro de la semaine dernière. C'est donc ce maître Hu qui fait des couteaux avec les débris d'obus donc que la Chine lançait sur Jinmen.
Les larmes des couteaux, c'est l'acier des obus.
Voilà, exactement, c'est l'acier des obus et ça c'est vendu donc aux touristes chinois.
Oui, mais l'intégration économique qui a progressé à grands pas sous le président précédent, notamment, le président Ma, elle a des inconvénients, parce que elle désindustrialise Taïwan, elle ne rapporte pas autant qu'on l'espérait parce que la croissance de la Chine diminue, et la croissance de Taïwan en conséquence, et elle met dans la dépendance économique de la Chine, Taïwan.
Oui, c'est ce que les Taïwanais craignent le plus, c'est cette forme de dépendance économique de Taïwan par rapport à la Chine. Et c'est la raison pour laquelle l'accord cadre de coopération économique signé entre le Kuomintang et le Parti communiste chinois pose autant de problèmes aujourd'hui à Taïwan. Les Taïwanais veulent plutôt une politique de prudence. Ils veulent que les choses soient décidées progressivement et c'est ce qu'ils revendiquent aujourd'hui. Ils veulent une transparence par rapport au processus donc de vote de ces différents actes.
Je voudrais qu'on s'arrête avant de parler du résultat des élections de ce week-end sur un moment de l'automne 2015 où le président chinois et le président taïwanais, je crois que c'était la première fois, s'étaient rencontrés en terrain neutre à Singapour.
C'est historique, les présidents chinois et taïwanais se serrent la main.
Derrière nous, il y a une histoire de plus de 60 ans de séparation. La rencontre d'aujourd'hui est le résultat de ce que nous avons construit ces dernières années. Nous nous engageons à remplacer la confrontation par le dialogue.
Mais le président chinois laisse clairement entendre sa position. Pour lui, Taïwan fait toujours partie du territoire chinois et doit être réunifié.
Qu'importe les années pendant lesquelles nous avons été séparés, aucune force ne peut nous tenir à l'écart l'un de l'autre. Parce que nous sommes des frères liés par le sang, nous sommes une famille.
Alors comment s'appelle-t-il quand ils se rencontrent ?
Il s'appelle Monsieur, il s'appelle Shenzhen. Ils ne peuvent pas s'appeler l'un l'autre par leur titre politique, le titre de président, donc ils s'appellent Monsieur.
Et alors quand à Taïwan, on parle de la Chine populaire, comment dit-on ?
On dit Chine, on dit Zhongguo.
Chine.
Oui, et souvent on dit aussi Parti communiste chinois, on dit Zhonggong.
Donc Madame Tsai, vous me permettrez de l'appeler familièrement ainsi,
oui.
Son vrai nom c'est
Tsai Ing-wen.
Elle a été élue à 56% présidente de la République. Elle incarne la tendance contraire à celle du président sortant Ma. Son parlement est pour la première fois majoritaire. Donc son parti est pour la première fois majoritaire au Parlement dans l'histoire de Taïwan. Qu'est-ce qu'elle peut faire si elle disait à Pékin « Je vous reconnais, vous êtes la République populaire de Chine
». Alors, les Taïwanais...
Elle cesserait de dire Chine et elle cesserait de dire Parti communiste chinois.
On ne peut pas dire que les Taïwanais ne reconnaissent pas la République populaire de Chine. En fait, ce que voudrait la nouvelle présidente, Madame Tsai, c'est que on maintienne le statu quo, en fait, dans le détroit, c'est-à-dire qu'il y ait Taïwan d'un côté et puis la Chine de l'autre, et que les Taïwanais décident de leur désir ou non de se réunifier à la Chine, que ce ne soit pas imposé, en fait. Hein.
Et puis, il y a toujours le parapluie militaire américain et l'alliance de fait japonaise qui peuvent dissuader Pékin aux aguets après le vote des Taïwanais. Nous entendrons une Taïwanaise vendredi. Ce sera notre témoin, la cinéaste taïwanaise Cho Chun Li, qui sort un film sur la diaspora chinoise en France, Shanghai Belleville. Ça, c'est notre programme. Au générique, Mathias Alléon à la technique, Jacques Sigal à la réalisation, Franck Olivard à la préparation.